L'Iliade, chant 20e. Auprès des nefs aux poupres courbées, et autour de toi, fils de Péléus, les Achéens insatiables de combat s'armaient ainsi, et les Troyens de leur côté se rangeaient sur la hauteur de la plaine. Et Zeus ordonna à Athémis de convoquer les dieux à l'agora, de toutes les cimes de l'Olympos, et celle-ci, volant çà et là, leur commanda de se rendre à la demeure de Zeus. Et aucun des fleuves n'y manqua, sauf Okeanos, ni aucune des nymphes qui habitent les belles forêts et les sources des fleuves et les prairies herbues. Et tous les dieux vinrent s'asseoir dans la demeure de Zeus qui amasse les nuées, sous les portiques brillants qu'Héphaïstos avait habilement construits pour le père Zeus. Et ils vinrent tous. Et Poséidon, ayant entendu la déesse, vint aussi de la mer. Et il s'assit au milieu d'eux. Et il interrogea la pensée de Zeus. « Pourquoi, ô foudroyant, convoques-tu de nouveau les dieux à l'agora? Serait-ce pour délibérer sur les Troyens et les Achéens? Bientôt, en effet, ils vont engager la bataille ardente. » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi. « Tu as dit, Poséidon, dans quel dessein je vous ai réunis, car ces peuples périssables m'occupent, en effet. » Assis au faîte de l'Olympos, je me réjouirai en les regardant combattre. Mais vous, allez tous vers les Troyens et les Achéens. Secourez les uns ou les autres, selon que votre cœur vous y poussera. Car si Achilleus combat seul et librement les Troyens, jamais ils ne soutiendront la rencontre du rapide Péléon. Déjà, son aspect seul les a épouvantés. Et maintenant qu'il est plein de fureur à cause de son compagnon, je crains qu'il renverse les murailles d'Ilios, malgré le destin. » Le crognon parla, suscitant une guerre inéluctable. Et tous les dieux, opposés les uns aux autres, se préparèrent au combat. Et du côté des nefs se rangèrent Erré et Pallas Athénée, et Poséidon qui entoure la terre, et Hermès utile et plein de sagesse, et Héphaïstos, boiteux et frémissant dans sa force. Et du côté des Troyens, se rangèrent Arès aux armes mouvantes, et Phoïbos aux longs cheveux, et Artémis, joyeuse de ses flèches, et Leto, Exanthos, et Aphrodite qui aime les sourires. Tant que les dieux ne se mêlèrent point aux guerriers, les Achéens furent pleins de confiance et d'orgueil, parce qu'Achilleus avait reparu, après s'être éloigné longtemps du combat. Et la terreur rompit les genoux des Troyens quand ils virent le Péléon aux pieds rapides, resplendissant sous ses armes, et pareil au terrible Arès. Mais quand les dieux se furent mêlés aux guerriers, la violente Érie s'excita les deux peuples, et Athénée poussa des cris, tantôt auprès du fossé creux, hors des murs, tantôt le long des rivages retentissants. Et Arès, semblable à une noire tempête, criait aussi, soit au faîte d'Ilios, en excitant les Troyens, soit le long des belles collines du Simoïs. Ainsi les dieux heureux engagèrent la mêlée violente entre les deux peuples. Et le père des hommes et des dieux tonna longuement dans les hauteurs, et Poséidon ébranla la terre immense et les cimes des montagnes. Et les racines de l'Ida aux nombreuses sources tremblèrent, et la ville des Troyens, et les nefs des Achéens. Et le souterrain Idonéus, le roi des morts, trembla, et il sauta épouvanté de son trône, et il cria, craignant que Poséidon qui ébranle la terre l'entrouvrit, et que les demeures affreuses et infectes, en horreur aux dieux eux-mêmes, fussent vues des mortels et des immortels. Tant fut terrible le retentissement du choc des dieux. Et Phoïbos Apollon, avec ses flèches empennées, marchait contre le roi Poséidon, et la déesse Athénée aux yeux clairs contre Arès, et Artémis, sœur de l'archer Apollon, joyeuse de porter les sonores flèches dorées contre Erré et contre Leto, le sage et utile Hermès, et contre Héphaïstos, le grand fleuve au profond tourbillon, que les dieux nomment Xanthos et les hommes Scamandros. Ainsi les dieux marchaient contre les dieux. Mais Achilleus ne désirait rencontrer que le Priamide Hector dans la mêlée, et il ne songeait qu'à boire le sang du brave Priamide. Et Apollon qui soulève les peuples, excita Énéas contre le Péléide, et il le remplit d'une grande force. Et semblable par la voix à Lycaon, fils de Priamos, le fils de Zeus, dit à Énéas. Énéas, prince des Troyens, où est la promesse que tu faisais au roi d'Ilios de combattre le Péléide Achilleus? Et Énéas lui répondant parla ainsi. Priamide, pourquoi me pousses-tu à combattre l'orgueilleux Péléon? Je ne tiendrai pas tête pour la première fois au rapide Achilleus. Déjà autrefois de sa lance, il m'a chassé de l'Ida, quand ravissant nos bœufs, il détruisit l'Irnessos et Pédasos. Mais Zeus me sauva, en donnant la force et la rapidité à mes genoux. Certes, je serais tombé sous les mains d'Achilleus et d'Athénée qui marchaient devant lui, et l'excitaient à tuer les Lélèges et les Troyens, à l'aide de sa lance d'airain. Aucun guerrier ne peut lutter contre Achilleus. Un des dieux est toujours auprès de lui qui le préserve. Ses traits vont droit au but, et ne s'arrêtent qu'après s'être enfoncés dans le corps de l'homme. Si un dieu rendait le combat égal entre nous, il ne me dompterait pas aisément, bien qu'il se vante d'être tout entier d'airain. Et le roi Apollon, fils de Zeus, lui répondit. Héros, il t'appartient aussi d'invoquer les dieux éternels. On dit aussi, en effet, qu'Aphrodite, fille de Zeus, t'a enfanté, et lui est né d'une déesse inférieure. Ta mère est fille de Zeus, et la sienne est fille du vieillard de la mer. Pousse droit à lui les reins indomptables, et que ses paroles injurieuses et ses menaces ne t'arrêtent pas. Ayant ainsi parlé, il inspira une grande force au prince des peuples, qui courut en avant, armé de l'airain splendide. Mais le fils d'Anchise, courant au Péléide à travers la mêlée des hommes, fut aperçu par Érée au bras blanc, et celle-ci, réunissant les dieux, leur dit « Poséidon et Athénée, songez à ceci dans votre esprit. Énéas, armé de l'airain splendide, cours au Péléide, et Phoibos Apollon l'y excite. Allons, écartons ce dieu, et qu'un de nous assiste Achilleus, et lui donne la force et l'intrépidité. Qu'il sache que les plus puissants des immortels l'aiment, et que ce sont les plus faibles qui viennent en aide aux Troyens dans le combat. Tous, nous sommes descendus de l'Ouranos dans la mêlée, afin de le préserver des Troyens en ce jour. Et il subira ensuite ce que la destinée lui a filé avec le lin, depuis que sa mère l'a enfanté. Si Achilleus, dans ce combat, ne ressent pas l'inspiration des dieux, il redoutera la rencontre d'un immortel, car l'apparition des dieux épouvante les hommes. » Et Poséidon, qui ébranle la terre, lui répondit « Érée, ne t'irrite point hors de raison, car cela ne te convient pas. Je ne veux point que nous combattions les autres dieux, étant de beaucoup plus forts qu'eux. Asseyons-nous hors de la mêlée, sur la colline, et laissons aux hommes le souci de la guerre. Si Arès commence le combat, ou Phoibos Apollon, et s'ils arrêtent Achilleus et l'empêchent d'agir, alors une lutte terrible s'engagera entre eux et nous. Et je pense que, promptement vaincus, ils retourneront dans l'Ouranos, vers l'assemblée des immortels, rudement domptés par nos mains irrésistibles. » Ayant ainsi parlé, Poséidon aux cheveux bleus les précéda dans la muraille haute du divin Héraclès. Athénée et les Troyens avaient autrefois élevé cette enceinte pour le mettre à l'abri de la baleine, quand ce monstre le poursuivait du rivage dans la plaine. Là, Poséidon et les autres dieux s'assirent, s'étant enveloppés d'une épaisse nuée. Et de leur côté, les immortels défenseurs d'Ilios s'assirent sur les collines du Simoïs, autour de toi, archer Apollon, et de toi, Arès, destructeur de citadelles. Ainsi tous les dieux étaient assis, et ils méditaient, retardant le terrible combat, bien que Zeus, tranquille dans les hauteurs, les eût excités. Et toute la plaine était emplie et resplendissait de l'airain des chevaux et des hommes, et la terre retentissait sous les pieds des deux armées. Et au milieu de tous, s'avançaient prêts à combattre Énéas Anchisiade et le divin Achilleus. Et Énéas marchait, menaçant, secouant son casque solide, et portant devant sa poitrine son bouclier terrible, et brandissant sa lance d'airain. Et le Péléide se ruait sur lui, comme un lion dangereux que toute une foule désire tuer. Et il avance, méprisant ses ennemis. Mais dès qu'un des jeunes hommes l'a blessé, il ouvre la gueule, et l'écume jaillit à travers ses dents, et son cœur rugit dans sa poitrine, et il se bat les deux flancs et les reins de sa queue, s'animant au combat. Puis les yeux flambants, il bondit avec force droit sur les hommes. afin de les déchirer ou d'en être tué lui-même. Ainsi, sa force et son orgueil poussaient Achilleus contre le magnanime Énéas. Et quand ils se furent rencontrés, le premier, le divin Achilleus aux pieds rapides, parla ainsi. « Énéas, pourquoi sors-tu de la foule des guerriers? Désires-tu me combattre dans l'espoir de commander aux Troyens d'auteurs de chevaux avec la puissance de Priamos? Mais si tu me tuais, Priamos ne te donnerait point cette récompense, car il a des fils et lui-même n'est pas insensé. Les Troyens, si tu me tuais, t'auraient-ils promis un domaine excellent où tu jouirais de tes vignes et de tes moissons? Mais je pense que tu le mériteras peu aisément, car déjà je t'ai vu fuir devant ma lance. Ne te souviens-tu pas que je t'ai précipité déjà des cimes idaïennes loin de tes bœufs, et que sans te retourner dans ta fuite, tu te réfugias à Lyrnessos? Mais l'ayant renversé, avec l'aide de Zeus et d'Athénée, j'en emmenai toutes les femmes qui pleuraient leur liberté. Zeus et les autres dieux te suivirent. Cependant, je ne pense pas qu'ils te sauvent aujourd'hui comme tu l'espères. Je te conseille donc de ne pas me tenir tête et de rentrer dans la foule avant qu'il te soit arrivé malheur. L'insensé ne connaît son mal qu'après l'avoir subi. » Et Énéas lui répondit : « N'espère point par des paroles m'épouvanter comme un enfant, car moi aussi je pourrais me répandre en outrage. L'un et l'autre, nous connaissons notre race et nos parents, sachant tous deux la tradition des anciens hommes, bien que tu n'aies jamais vu mes parents, ni moi les tiens. On dit que tu es le fils de l'illustre Péléus, et que ta mère est la nymphe marine Tétis aux beaux cheveux. Moi, je me glorifie d'être le fils du magnanime Anchisès, et ma mère est Aphrodite. Les uns ou les autres, aujourd'hui, pleureront leur fils bien-aimé, car je ne pense point que des paroles enfantines nous éloignent du combat. Veux-tu bien connaître ma race, célèbre parmi la multitude des hommes? Zeus, qui amasse les nuées, engendra d'abord Dardanos, et celui-ci bâtit Dardanier, et la sainte Ilios, citadelle des hommes, ne s'élevait point encore dans la plaine, et les peuples habitaient au pied de l'Ida où abondent les sources. Et Dardanos engendra le roi Erichthonios, qui fut le plus riche des hommes. Dans ses marécages paissaient 3000 juments, fiers de leurs poulains, et Boréas, sous la forme d'un cheval au crin bleu, les aima et les couvrit comme elles paissaient, et elles firent 12 poulines qui bondissaient dans les champs fertiles, courant sur la cime des épis sans les courber. Et quand elles bondissaient sur le large dos de la mer, elles couraient sur la cime des écumes blanches. Et Erichthonios engendra le roi des Troyens, Troos. Et Troos engendra 3 fils irréprochables, Ilos, Assaracos et le divin Ganymédès, qui fut le plus beau des hommes mortels, et que les dieux enlevèrent à cause de sa beauté, afin qu'il fût les chansons de Zeus, et qu'il habitât parmi les immortels. Et Ilos engendra l'illustre Laomédon, et Laomédon engendra Titonos, Priamos, Lampos, Clytios et Iquétaon, nourrissant d'Arès. Mais Assaracos engendra Capis, qui engendra Anchise, et Anchise m'a engendré, comme Priamos a engendré le divin Hector. Je me glorifie de ce sang et de cette race. Zeus, comme il le veut, augmente ou diminue la vertu des hommes, étant le plus puissant. Mais debout dans la mêlée, ne parlons point plus longtemps comme de petits enfants. Nous pourrions aisément amasser plus d'injures que n'emporterait une nef à 100 avirons. La langue des hommes est rapide et abonde en discours qui se multiplient de part et d'autre. Et tout ce que tu diras, tu pourras l'entendre. Faut-il que nous luttions d'injures et d'outrages, comme des femmes furieuses qui combattent sur une place publique à coups de mensonges et de vérités, car la colère les mène? Les paroles ne me feront pas reculer avant que tu n'aies combattu. Agis donc promptement et goûtons tous deux de nos lances d'airain. » Il parla ainsi. Et il poussa violemment la lance d'airain contre le terrible bouclier, dont l'orbe résonna sous le coup. Et le Péléide, de sa main vigoureuse, tendit le bouclier loin de son corps, craignant que la longue lance du magnanime Énéas passât au travers. L'insensé ne songeait pas que les présents glorieux des dieux résistent aisément aux forces des hommes. La forte lance du belliqueux Énéas ne traversa point le bouclier, car l'or présent d'un dieu arrêta le coup qui perça deux lames. Et il y en avait encore trois que le boiteux avait disposé ainsi. Deux lames d'airain par-dessus, deux lames d'étain au-dessous, et au milieu, une lame d'or qui arrêta la pique d'airain. Alors Achilleus jeta sa longue lance, qui frappa le bord du bouclier égal d'Énéas, là où l'airain et le cuir étaient le moins épais. Et la lance du Péliade traversa le bouclier qui retentit. Et Énéas le tendit loin de son corps, en se courbant, plein de crainte. Et la lance, par-dessus son dos, s'enfonça en terre, ayant rompu les deux lames du bouclier qui abritait le Troyen. Et celui-ci resta épouvanté, et la douleur troubla ses yeux, quand il vit la grande lance enfoncée auprès de lui. Et Achilleus, arrachant de la gaine son épée aiguë, se rua avec un cri terrible. Énéas saisit un lourd rocher, tel que deux hommes de maintenant ne pourraient le porter, mais il le remuait aisément. Alors Énéas eut frappé Achilleus, qui se ruait, soit au casque, soit au bouclier qui le préservait de la mort. Et le Péléide, avec l'épée, lui eut arraché l'âme, si Poséidon qui ébranle la terre ne s'en fut aperçu. Et aussitôt, il dit au milieu des dieux immortels, « Hélas, je gémis sur le magnanime Énéas qui va descendre chez Édès, dompté par le Péléide. L'archer Apollon a persuadé l'insensé et ne le sauvera point. Mais innocent qu'il est, pourquoi subirait-il les maux mérités par d'autres? N'a-t-il point toujours offert des présents agréables aux dieux qui habitent le large Ouranos? Allons, sauvons-le de la mort, de peur que le Cronide ne s'irrite si Achilleus le tue. Sa destinée est de survivre, afin que la race de Dardanos ne périsse point, lui que le Cronide a le plus aimé, parmi tous les enfants que lui ont donnés les femmes mortelles. Le Cronion est plein de haine pour la race de Priamos. La force d'Énéas commandera sur les Troyens, et les fils de ses fils régneront, et ceux qui naîtront dans les temps à venir. » Et la vénérable Érée aux yeux de bœuf lui répondit, « Poséidon, vois s'il te convient dans ton esprit de sauver Énéas ou de laisser le Péléide Achilleus le tuer. Car nous avons souvent juré, moi et Pallas Athénée, au milieu des dieux, que jamais nous n'éloignerions le jour fatal d'un Troyen, quand même Troie brûlerait tout entière dans le feu allumé par les fils des Achéens. » Et dès que Poséidon, qui ébranle la terre, eut entendu ces paroles, il se jeta dans la mêlée, à travers le retentissement des lances, jusqu'au lieu où se trouvaient Énéas et Achilleus. Et il couvrit d'un brouillard les yeux du Péléide. Et arrachant du bouclier du magnanime Énéas la lance à pointe d'airain, il la posa aux pieds d'Achilleus. Puis il enleva de terre Énéas, et celui-ci franchit les épaisses masses de guerriers et de chevaux, poussés par la main du dieu. Et quand il fut arrivé aux dernières lignes de la bataille, là où les Cocones s'armaient pour le combat, Poséidon qui ébranle la terre, s'approchant, lui dit ces paroles ailées. « Énéas, qui d'entre les dieux t'a persuadé, insensé, de combattre Achilleus, qui est plus fort que toi et plus cher aux immortels? Recule quand tu le rencontreras, de peur que malgré la moire, tu descendes chez Édès. Mais quand Achilleus aura subi la destinée et la mort, ose combattre au premier rang, car aucun autre des Achéens ne te tuera. » Ayant ainsi parlé, il le quitta. Puis il dispersa l'épais brouillard qui couvrait les yeux d'Achilleus. Et celui-ci vit tout clairement de ses yeux, et plein de colère, il dit dans son esprit, « Ô Dieu, certes voici un grand prodige. Ma lance gît sur la terre devant moi, et je ne vois plus le guerrier contre qui je l'ai jeté, et que je voulais tuer. Certes, Énéas est cher aux dieux immortels. Je pensais qu'il s'en vantait faussement. Qu'il vive. Il n'aura plus le désir de me braver maintenant qu'il a évité la mort. Mais allons, j'exhorterai les Danaïens belliqueux et j'éprouverai la force des autres Troyens. » Il parla ainsi et il courut à travers les rangs, commandant à chaque guerrier. « Ne restez pas plus longtemps loin de l'ennemi, divins Achéens. Marchez, homme contre homme, et prêts au combat. Il m'est difficile, malgré ma force, de poursuivre et d'attaquer seul tant de guerriers. ni Arès, bien qu'il soit un dieu immortel, ni Athénée n'y suffirait. Je vous aiderai de mes mains, de mes pieds, de toute ma vigueur, sans jamais faiblir. Et je serai partout, au travers de la mêlée, et je ne pense pas qu'aucun Troyen se réjouisse de rencontrer ma lance. » Il parla ainsi, et de son côté l'illustre Hector animait les Troyens, leur promettant qu'ils combattraient Achilleus. « Troyens magnanimes, ne craignez point Achilleus. Moi aussi, avec des paroles, je combattrai jusqu'aux immortels. Mais avec la lance, ce serait impossible, car ils sont les plus forts. Achilleus ne réussira point dans tout ce qu'il dit. S'il accomplit une de ses menaces, il n'accomplira point l'autre. Je vais marcher contre lui, quand même il serait tel que le feu par ses mains. Oui, quand même il serait tel que le feu par ses mains, quand il serait par sa vigueur tel que le feu ardent. » Il parla ainsi, et aussitôt les Troyens tendirent leurs lances, et ils se serrèrent, et une grande clameur s'éleva. Mais Phoïbos Apollon s'approcha d'Hector et lui dit : « Hector, ne sors point des rangs contre Achilleus. Reste dans le tumulte de la mêlée, de peur qu'il te perce de la lance ou de l'épée, de loin ou de près. » Il parla ainsi, et le Priamide rentra dans la foule des guerriers, plein de crainte, dès qu'il eut entendu la voix du dieu. Et Achilleus, vêtu de courage et de force, se jeta sur les Troyens en poussant des cris horribles. Et il tua d'abord le brave Iphition au Trintéide, chef de nombreux guerriers, et que la nymphe Néis avait conçu du destructeur de citadelles au Trintéus, sous le nez jeute Molos, dans la fertilité. Comme il se ruait en avant, le divin Achilleus le frappa au milieu de la tête, et celle-ci se fendit en deux. Et Iphition tomba avec bruit, et le divin Achilleus se glorifia ainsi. « Te voilà couché sur la terre, ô Trintéide, le plus effrayant des hommes. Tu es mort ici, toi qui es né non loin du lac Gigaios, où est ton champ paternel, sur les bords poissonneux du Hylos et du Hermos tourbillonnant. » Il parla ainsi, triomphant, et le brouillard couvrit les yeux d'Iphition, que les chars des Achéens déchirèrent de leurs roues au premier rang. Et après lui, Achilleus tua Démoléon, brave fils d'Anténor, et il lui rompit la tempe à travers le casque d'airain, et le casque d'airain n'arrêta point le coup, et la pointe irrésistible brisa l'os en écrasant toute la cervelle. Et c'est ainsi qu'Achilleus tua Démoléon, qui se ruait sur lui. Et comme Hippodamas, sautant de son char, fuyait, Achilleus le perça dans le dos d'un coup de lance. Et le Troyen rendit l'âme en mugissant comme un taureau que des jeunes hommes entraînent à l'autel du dieu de Héliké, de Poséidon qui se réjouit du sacrifice. Et c'est ainsi qu'il mugissait, et que son âme abandonna ses ossements. Puis Achilleus poursuivit de sa lance le divin Polydoros Priamide, à qui son père ne permettait point de combattre, étant le dernier-né de ses enfants et le plus aimé de tous. Et il surpassait tous les hommes à la course. Et il courait, dans une ardeur de jeunesse, fier de son agilité, parmi les premiers combattants. Mais le divin Achilleus, plus rapide que lui, le frappa dans le dos, là où les agrafes d'or attachaient le baudrier sur la double cuirasse. Et la pointe de la lance le traversa jusqu'au nombril, et il tomba hurlant sur les genoux. Et une nuée noire l'enveloppa, tandis que courbé sur la terre, il retenait ses entrailles à pleine main. Hector, voyant son frère Polydoros renversé et retenant ses entrailles avec ses mains, sentit un brouillard sur ses yeux, et il ne put se résoudre à combattre plus longtemps de loin, et il vint à Achilleus, secouant sa lance aiguë et semblable à la flamme. Et Achilleus le vit, et bondit en avant, et dit en triomphant : « Voici donc l'homme qui m'a déchiré le cœur et qui a tué mon irréprochable compagnon. Ne nous évitons pas plus longtemps dans les détours de la mêlée. » Il parla ainsi, et regardant le divin Hector d'un œil sombre, il dit : « Viens, approche, afin de mourir plus vite. » Et Hector, au casque mouvant, lui répondit sans crainte : « Péléide, n'espère point m'épouvanter par des paroles comme un petit enfant. Moi aussi, Je pourrais parler injurieusement et avec orgueil. Je sais que tu es brave et que je ne te vaux pas, mais nos destinées sont sur les genoux des dieux. Bien que je sois moins fort que toi, je t'arracherai peut-être l'âme d'un coup de ma lance. Elle aussi, elle a une pointe perçante. » Il parla ainsi, et secouant sa lance, il la jeta. Mais Athénée, d'un souffle, l'écarta de l'illustre Achilleus et la repoussa vers le divin Hector et la fit tomber à ses pieds. Et Achilleus, furieux, se rua pour le tuer en jetant des cris horribles. Mais Apollon enleva aisément le Priamide, comme le peut un dieu, et il l'enveloppa d'une épaisse nuée. Et trois fois, le divin Achilleus, aux pieds rapides, se précipitant, perça cette nuée épaisse de sa lance d'airain. Et une quatrième fois, semblable à un démon, il se rua en avant, et il cria ces paroles outrageantes. « Chien, de nouveau tu échappes à la mort. Elle t'a approché de près, mais Phoibos Apollon t'a sauvé. Lui à qui tu fais des vœux quand tu marches à travers le retentissement des lances. Je te tuerai si je te rencontre encore et si quelque dieu me vient en aide. Maintenant, je poursuivrai les autres Troyens. » Ayant ainsi parlé, il perça Dryops au milieu de la gorge et l'homme tomba à ses pieds et il l'abandonna. Puis il frappa de sa lance au genou le large et grand Démochos Philétoride. Puis avec sa forte épée, il lui arracha l'âme. Et courant sur Laogonos et Dardanos, fils de Bias, il les renversa tous deux de leur char, l'un d'un coup de lance, l'autre d'un coup d'épée. Et Troos à l'Astoride, pensant qu'Achilleus l'épargnerait, ne le tuerait point et le prendrait vivant, ayant pitié de sa jeunesse, vint embrasser ses genoux. Et l'insensé ne savait pas que le Péléide était inexorable, et qu'il n'était ni doux, ni tendre, mais féroce. Et comme le Troyen embrassait ses genoux en le suppliant, Achilleus lui perça le foie d'un coup d'épée et le lui arracha. Un sang noir jaillit du corps de Troos et le brouillard de la mort enveloppa ses yeux. Et Achilleus perça Moulios d'un coup de lance, de l'une à l'autre oreille, et de son épée à lourde poignée, il fendit par le milieu la tête de l'Agénorie des Kéklos, et l'épée fuma ruisselante de sang, et la noire mort et la moire violente couvrirent ses yeux. Et il frappa de Calion là où se réunissent les nerfs du coude. La pointe des reins lui engourdit le bras, et il resta immobile, voyant la mort devant lui. Et Achilleus, d'un coup d'épée, lui enleva la tête qui tomba avec le casque. La moelle jaillit des vertèbres, et il resta étendu contre terre. Puis Achilleus se jeta sur le brave Rigmos, fils de Peiréus, qui était venu de la fertile Thrace. Et il le perça de sa lance dans le ventre, et l'homme tomba de son char. Et comme Areitoos, compagnon de Rigmos, faisait retourner les chevaux, Achilleus, en le perçant dans le dos d'un coup de lance, le renversa du char. Et les chevaux s'enfuirent épouvantés. De même qu'un vaste incendie gronde dans les gorges profondes d'une montagne aride, tandis que l'épaisse forêt brûle et que le vent secoue et roule la flamme. De même Achilleus courait, tel qu'un démon, tuant tout ce qu'il poursuivait, et la terre noire ruisselait de sang. De même que deux bœufs, au large front, foule accouplée, l'orge blanche dans une aire arrondie, et que les tiges frêles laissent échapper les graines sous les pieds des bœufs qui mugissent. De même sous le magnanime Achilleus, les chevaux aux sabots massifs foulaient les cadavres et les boucliers. Et tous les cieux étaient inondés de sang. Et toutes les parois du char ruisselaient des gouttes de sang qui jaillissaient des roues et des sabots des chevaux. Et le Péléide était avide de gloire. Et le sang souillait ses mains inévitables.